Alors, qu'est-ce qu'on entend, je commence pendant que tu... qu'est-ce qu'on entend par plurilinguisme dans le cadre de notre projet? Enfin, j'ai peut-être quand même passé un tout petit peu vite la première, parce que Pluriel, c'est le nom du projet de recherche dans lequel on est engagé, qui est donc un projet de recherche sur le développement du plurilinguisme en contexte éducatif, en fait. Parce qu'il y a aussi dans le projet des axes qui travaillent sur plurilinguisme à l'université et puis dans d'autres contextes. Mais nous, on est respectivement responsable de deux axes qui s'intéressent au contexte scolaire. Donc plurilinguisme, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, c'est, évidemment, le résumé en une diapo, c'est un peu court. Vas-y. Pour...
Bon, bah, déjà, on peut lire la première marche. On parle de répertoire plurilingue, hein, comme répertoire langagier constitué de plusieurs langues, mais surtout, dans notre cas et dans notre perspective, de répertoire de diverses variétés de langues. Et bon, on pourra développer peut-être un peu après, mais ceci nous conduit à parler de compétences plurilingues d'une certaine façon, puisqu'il s'agit pour nous de l'articulation entre les différentes compétences en langue. Alors, ceci a pour conséquence de permettre, si on travaille à la reconnaissance, à la légitimation des variétés de langues, des diverses langues, etc., et des savoir-faire, bien évidemment, de permettre la distanciation. Et pour nous, c'est extrêmement important de parler de ça, puisque la distanciation par rapport aux langues, par rapport aux variétés de langues, ça entre dans ce qu'on peut appeler des compétences linguistiques, métalinguistiques surtout, épilinguistiques. Et scolairement parlant, nous y sommes très attentifs.
Alors attendez, parce que si tu ne suis pas l'ordre du diapo, parce que là, tu es déjà au deuxième point, tu n'as rien dit du premier.
Oui, mais j'y revenais. Mais peu importe. Vas-y.
Bon, parce que dans les objectifs, il y en a un premier. Quand on travaille sur les langues à l'école et sur les variétés de langues à l'école, le premier objectif, c'est que l'école reconnaisse les savoirs et savoir-faire développés en dehors de l'école. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'il y ait un espace dans l'école où on travaille avec les élèves sur les langues de la maison, mais pas seulement les langues de la maison, mais aussi les variétés de langues de la maison. Ça veut dire que ça concerne aussi éventuellement des élèves qu'on dirait un peu rapidement monolingues, mais qui en fait ont des variétés de langues chez eux dans leur famille, qui effectivement relèvent de la grande famille du français, mais sont quand même très éloignés des normes attendues dans le contexte scolaire. Donc le premier objectif, c'était le premier tiret quand même, c'est que l'école reconnaisse ses savoirs et ses savoir-faire langagiers qui sont développés hors de l'école et qu'elle ne les nie pas comme elle le fait depuis, comme elle l'a toujours fait depuis qu'elle existe. Alors, le deuxième objectif, c'est effectivement celui-là. Peut-être dire un mot quand même sur épilinguistique, parce que ce n'est pas un terme.
Non, non, mais alors, donc ça, effectivement, nous a conduit à regarder, enfin, à avoir un même regard à la fois sur les variétés d'une langue, à l'intérieur d'une langue, et les différentes langues utilisées par une même personne dans différents endroits. Donc, il s'agit de... Alors, ceci nous conduit, comme je le disais tout à l'heure, à travailler beaucoup sur... et à penser surtout que ce travail sur la diversité interne, ce travail sur les variétés et les diverses langues nous conduisent donc... Nous conduit ce travail à imaginer que... imaginer, c'est peut-être un peu faible, à penser vraiment que ça permet le développement à l'école de capacités épilinguistiques et métalinguistiques chez l'enfant qui, bien évidemment, vont conduire, par voie de conséquence, à comprendre et à utiliser des capacités en... épi et méta pour faire avancer la compétence linguistique en tant que telle, et donc la compétence en français, si on veut revenir à ses fondamentaux. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais
je pourrais dire un mot juste pour méta et épi, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu notre jargon, c'est un jargon un peu... Bon, méta, non, évidemment, développer une compétence métalinguistique, ça c'est quelque chose qu'on partage avec... les enseignants, je pense que c'est fait partie du vocabulaire courant ou à peu près de la communauté enseignante, donc un savoir réfléchir sur les langues. C'est vrai que quand on parle de savoir métalinguistique, ça veut dire qu'il y a derrière tout un outillage langagier pour parler de la langue. Il y a de la métalangue. Mais dans les réflexions sur les langues qu'on peut faire avec les élèves, il y a le développement d'un savoir-faire qui n'est pas forcément accompagné de tout un jargon. Et qui est un savoir peut-être plus justement de l'ordre du savoir-faire, qui est une attention à la langue et qui ne va pas forcément faire d'eux des linguistes, mais des personnes attentives à ce que c'est que la variété. Et donc le troisième point qu'on développe, c'est que Marité a évoqué tout à l'heure, c'est l'idée que travailler avec eux sur la diversité, c'est pas la diversité pour la diversité, parce qu'on n'oublie pas la mission de l'école. On est tous d'accord que la mission de l'école, c'est de leur permettre d'abord de s'approprier les codes qui vont être ceux qu'attend l'institution académique, celle qui va leur permettre de faire des études. Pas forcément des grandes études, parce que dans les publics qu'on a, mais enfin, de toute façon, quel que soit le type d'études dans lequel on s'engage, il y a des attentes en termes de normes langagières. Mais l'idée, c'est que si on travaille avec eux sur la variété, si on ne fait pas comme si les autres variétés n'existaient pas, parce que le problème de l'école, c'est qu'elle a tendance à, pour simplifier, on leur dit, mais ça, c'est pas français. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune reconnaissance des formes qu'ils peuvent utiliser en dehors de l'école. La formule, c'est pas français, on l'entend tout le temps. Si c'est pas français, c'est quoi ? C'est pourtant pas du chinois, c'est pourtant pas de l'hébreu. Donc, quelque chose qu'il va bien falloir pouvoir nommer. Et l'idée, c'est justement de réintégrer ça dans le champ du français. Mais ben voilà, le français, il est divers. Et puis, ben, suivant les lieux dans lesquels on est, suivant les personnes auxquelles on s'adresse, il y a des variétés qui sont plus ou moins appropriées. C'est quelque chose que les enfants savent, hein. Voilà, ils le savent très bien. Et puis, ils savent très bien, quand ils veulent obtenir quelque chose, utiliser telle variété ou telle variété. Simplement, ça vaut la peine de leur faire comprendre que c'est un objet, c'est un vrai savoir-faire qu'ils ont, qu'ils peuvent développer. Et puis, ils savent le faire, mais jusqu'à un certain point, parce qu'on sait aussi qu'ils se heurtent à certaines difficultés quand ils doivent utiliser les normes attendues par l'école. Alors, variété, variation, on en a discuté hier soir, justement, on dit, est-ce qu'on laisse les deux mots, est-ce que c'est bien nécessaire? Oui, mais alors, toi, pourquoi tu dis variété? Toi, pourquoi tu dis variation? On n'a pas terminé la discussion sur variété, variation. Oui, qui sont... Alors, voilà, bon, la
oui,
question...
Oui, vas-y. Bon, la niveau, nous sommes très réticentes parce qu'effectivement, des niveaux, ça suppose des niveaux haut et bas et intermédiaires et des niveaux valables ou pas valables. Enfin, c'est vrai que c'est plus... c'est ressenti comme ça, mais le terme niveau, quand même, induit ça. Hein, et on l'entend encore utilisé couramment par les enseignants.
On est quand même plus dans des logiques oui. de registre maintenant que de niveau, il me semble, dans le contexte scolaire. Enfin, il semble que le terme niveau, il a vraiment... Ouais, voilà, ouais, qui est moins ouais. connoté. Ouais, hein. ouais. On est d'accord qu'on parle de la même chose. Hein.
Ouais. On est... C'est-à-dire des variétés donc, de langues.
Alors après, l'idée des registres par rapport... Si on va, donc on laisse niveau de côté, parce que je pense qu'effectivement, on a tout intérêt à le... Mais entre registre et variété, le problème des registres, c'est que vous voyez bien ce que c'est. Un registre, c'est quelque chose qu'on ouvre et qu'on ferme. C'est-à-dire qu'il y a des tiroirs et puis dedans il y a des registres ou alors on va considérer que chaque mot. Mais un registre c'est ouvert ou c'est fermé. Et la notion de variété, et en fait c'est toute l'approche des langues hein, dans laquelle on est, c'est ouvert et toujours en interconnexion. C'est-à-dire que la notion de registre, elle nous gêne pas spécialement, mais elle donne l'illusion qu'il y aurait, il y a le registre de la maison, et puis il y aurait le registre de l'école, il y aurait le registre de l'oral, et puis le registre de l'écrit. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est des systèmes qui sont en interrelation, qui constituent éventuellement un grand système, et encore que même là, on peut avoir des doutes, parce que où est la frontière entre le français et l'arabe dans certaines conversations, c'est pas si clair. Donc, l'idée de variété et de variation, et si on peut s'épargner la discussion sur variété-variation, je pense que là, on va tous y gagner. Mais l'idée de variété-variation qui se substitue à registre, pour dialoguer ensemble. Hein. Moi, je dis pas forcément avec les élèves, le terme de registre doit être abandonné quand c'est plus économique. Et bon. Mais je pense que pour discuter avec des enseignants et pour faire avancer sur cette question de ce que c'est qu'une langue, on a tout intérêt à sortir de cette idée que les langues, c'est des systèmes clos. Parce que ça, c'est quelque chose dans lequel on a été enfermé. C'est une pensée dont il est très difficile de sortir. L'idée que les langues, c'est des systèmes clos, juxtaposés et qu'il y a des limites bien claires entre ce qui est l'oral et ce qui est l'écrit, entre ce qui est le français et ce qui est l'allemand. Ben, même entre le français et l'allemand, je peux vous trouver des situations ou des énoncés où on va se retrouver avec des difficultés à dire si c'est l'un, si c'est l'autre, si c'est plutôt l'un, si c'est plutôt l'autre, si c'est du mélange, si c'est... Voilà. Donc voilà l'idée de variété. Je sais pas, t'as quelque chose à dire. C'était une bonne question. On espérait bien l'esquiver, mais... Bon, alors...
Non, mais elle n'est pas épuisée, cette question, justement.
Non, elle
n'est
pas épuisée. Plurilinguisme. Alors là, celle-là, on l'a refaite hier soir, en fait, de diapo, à partir de la présentation de Madame Klein d'hier, parce que ça nous a travaillé. Non, on aurait bien voulu pouvoir continuer la discussion avec elle sur cette question. Je trouvais que c'était intéressant, ce qu'elle avait dit, sur cette idée que cette revisitation, enfin, que tu as en plus prolongé après, quand on a eu l'atelier, cette question de la compatibilité ou pas de travailler sur les langues des élèves et sur la diversité langagière avec les valeurs républicaines. Et donc, où elle nous a redit que les principes républicains rappellent que la loi ne concerne pas les communautés mais les individus. Et nous, ça nous a interpellés parce que c'est vrai, quand on raisonne en termes de langue, a priori, on ne peut pas réfléchir qu'à l'échelle d'un individu. Il y a forcément plusieurs individus s'il y a une langue. Parce qu'une langue qui n'appartient qu'à un individu, c'est plus une langue. Une langue, elle existe parce qu'elle permet de communiquer entre plusieurs personnes. Et puis cette question de la langue française comme langue de la République, dont tu disais donc l'atelier qu'en plus, mais tu l'as pas dit publiquement, qu'elle, c'est dans un chapitre qui est souveraineté. Donc, enfin bon, on s'est dit que tout ça, ça méritait que la réflexion soit poursuivie. Et la question, donc, on se l'est reposée de se dire, mais finalement, est-ce que ce qu'on développe dans ce projet reste dans les valeurs républicaines ou pas, finalement, auxquelles on pense être attaché. Là, je vais peut-être pas lancer là-dedans. Bon, et on s'est dit que finalement, le plurilinguisme auquel notre projet s'intéresse, alors c'est des pensées fraîches, hein, donc, parce qu'on n'avait pas réfléchi à ces questions-là, dans ces termes-là jusque-là, ne se situe pas au niveau des communautés. Ça, on en est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique, dans ce projet de, il faut défendre le Tchétchène en France, ou il faut défendre l'arabe en France, on n'est pas dans la logique des, les langues de France, qu'on voudrait préserver. D'ailleurs, ça crée beaucoup de problèmes dans le projet, parce que dans le projet se sont rajoutés, greffés des gens qui travaillent sur le breton. Et alors là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans les mêmes logiques. Bon, ils sont là dans le projet, il faut qu'on arrive à cohabiter, mais alors c'est pas, on n'est plus du tout dans la même démarche. Nous, on travaille bien sur des individus avec qui on des parcours de vie, des parcours scolaires, et qui sont porteurs d'une pluralité dont on pense que ni eux, ni la France n'a intérêt à la nier, à la gommer et à la faire disparaître. Mais c'est pas la communauté ceci ou la communauté cela qui nous intéresse dans ce projet. C'est bien des élèves qui sont porteurs d'une diversité et dont on pense que la mission de l'école, qui est entre autres de leur permettre de s'approprier les normes académiques du français, sera plus facile à atteindre si on fait de cette diversité une richesse. On pense aussi que la France a tout à y gagner, mais c'est plus la pluralité et la diversité en elle-même que telle ou telle communauté ou telle langue. Voilà. Alors, Marie-Thérèse ajoutait, on travaille sur des individus et des situations, parce que c'est vrai que c'est aussi des situations qui sont plurilingues, parce qu'il y a des gens qui sont en contact. C'est pas un article qui... Alors, parce que ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que l'imposition du français par le système scolaire avait bien pour but de prolonger le travail de la Première Guerre mondiale, on est d'accord, et de faire que le français s'impose sur tout le territoire comme ciment de l'unité nationale. Mais ça n'a pas été fait à travers un article de loi, d'un article de la Constitution, pardon. L'article de la Constitution, il a été fait dans le cadre de la construction européenne par rapport aux autres pays européens. C'est-à-dire que le but, c'était pas... Parce qu'à mon avis, il n'y en avait plus besoin. Hein. Si ça avait été pour faire du ciment français, de toute façon, le travail de laminage des langues régionales, il était fait, il n'y avait pas besoin d'un article dans la Constitution. L'article de la Constitution, il a été rajouté parce qu'on sentait le besoin que dans la Constitution, il y ait une garantie que la construction européenne ne finisse pas par faire que tous les textes légaux soient évidemment pas en tchétchène. Non, j'avais pas le problème, c'est pas le tchétchène, mais pas en allemand ou en espagnol, mais en anglais. Hein. C'était ça la grande peur. Donc voilà. Bon, cela dit, ça n'empêche pas qu'il y a certainement des questions. Il y a du potentiellement contradictoire dans cette question de la relation individu-communauté, hein, ça n'empêche pas. Cela dit, c'est vrai qu'on en discutait hier, cette question de cet article, comme disait Marité. Cela dit, quand il a été voté, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de gens qui l'ont voté dans l'esprit de rajouter encore une couche de ciment national. Mais disons qu'il était plus par rapport aux autres pays européens que... voilà. Ah oui, mais des constitutions de 58. Récent. Mais l'article, il a été rajouté après. Et je veux dire, oui, enfin, pour moi, déclaration des droits de l'homme, constitution, si ce n'est qu'on ne peut, on ne doit pas être contradictoire, c'est une autre. Mais c'est sûr, si on veut refaire l'histoire de l'imposition de la langue française, on va remonter loin. Hein. Donc effectivement, oui, je pense qu'on fait. Mais c'est vrai, oui, ça remonte, bien sûr, c'est une histoire. Cela dit, bon, nous, on n'a pas tellement travaillé dans des logiques de citoyenneté, mais je pense que les ponts seraient pas difficiles à établir entre les démarches qu'on peut avoir. C'est vrai que on n'a pas touché parce que voilà, on n'est pas partout. Mais je pense que quelqu'un qui serait plus dans des logiques de travailler avec ses élèves sur la citoyenneté n'aura pas de mal à s'emparer d'un travail sur la diversité langagière pour réfléchir à ça. Oui, il faut qu'on avance. Alors,
alors la démarche maintenant. Alors, on revient. Revenons, si vous voulez bien, au projet de recherche, puisque c'est à partir de là qu'on vous demandera si vous voulez bien travailler. Et donc, la démarche que nous avons proposée, alors, tout de suite, ça nécessite un positionnement par rapport à ce qu'on appelle l'innovation. Quelle est notre conception de l'innovation dans ce genre de démarche? Nous ne sommes pas tout à fait positionnés de la même façon que certains qui créent de nouveaux outils, de nouvelles démarches et qui mettent en avant ce caractère innovateur justement de la démarche avant même l'objectif lui-même hein, de la démarche et du projet. Alors, nous, notre objectif, hein, c'est de travailler avec les enseignants. Donc, non pas en apportant tout fait des programmes et des activités préparées, mais en se basant avec eux sur leurs propres pratiques et leurs propres questions. Alors, effectivement, ça c'est un peu abstrait de dire ça, mais nous avons une vue assez stricte de ce que nous pouvons faire et ne pas faire. C'est-à-dire que nous allons dans les classes. Alors peut-être qu'il faut que je reparle de. Bon, alors donc nous souhaitons accompagner des pratiques d'enseignants plutôt que imposer des pratiques. Voilà, des pratiques et des types de travaux. Alors, ça repose sur la réflexivité, le principe de réflexivité, c'est-à-dire que nous attendons des enseignants, et nous le voyons se développer peu à peu, une démarche réflexive, c'est-à-dire de retour sur ce qui a été fait, sur ce qui a été tenté, sur ce qui a été essayé, avec effectivement ensuite une autre version du projet, finalement, quelquefois. Donc, ça, c'est le côté réflexif des pratiques. Ensuite, bien sûr, nous les accompagnons vers plus de formalisation à partir de leurs objectifs et au sein des dispositifs. Alors, nous sommes, comme vous le voyez là, non pas... apportant des principes et des pratiques, mais nous sommes accompagnateurs. Alors effectivement, après des dialogues qui ont permis de préciser un petit peu ce que nous entendions par cette démarche du plurilinguisme, ce que nous entendions par plurilinguisme, mais les discours sont tels que très vite, c'est dans la pratique que les questions vont se poser et que la clarification va se faire peu à peu. Alors, nous sommes très attentifs aussi dans le développement des projets des enseignants aux modifications et aux progrès de des représentations, hein, des représentations à la fois des élèves et des représentations des enseignants. Bon, oui, je vais avancer un peu plus. Les relations que nous avons avec les formateurs, entre formateurs et chercheurs. Bon, il y a toute une histoire qui se développe et qui, au début, est assez timide dans le développement, puisque ça se passe un peu institutionnellement. Au début, il y a des rencontres.
Ça, c'est la suivante, hein?
Oui, mais j'accélère.
Bon, d'accord. Bon, alors, comment on me dit ça puis...
Bon, alors, donc... Nous participons. Ben oui, bon. Nous participons à l'élaboration et à la mise en œuvre donc de leurs projets et nous attendons que ces projets, nous accompagnons ces projets au fil de leur développement.
Oui. L'idée, c'était un positionnement quand même complexe où on est à la fois dans l'équipe parce qu'on travaille avec les enseignants, on participe aux activités, parfois on prend la classe, parfois on prend des groupes, et puis on est en même temps en marge, on le sait, on va pas faire semblant parce que d'abord on est pas lié à l'institution de la même manière que les enseignants, on n'a pas les parents sur le dos, on a quand même une position d'observateur dans certaines activités, et puis on a des objectifs qui sont ceux d'une analyse et d'une évaluation des pratiques et des effets, les enseignants étant eux centrés sur les élèves, et nous on est centrés à la fois sur les élèves et sur les pratiques des enseignants. Bon, enfin, cela dit, les enseignants qui participent au projet sont aussi centrés sur leurs pratiques, sinon... Alors en ce moment, essentiellement de l'élémentaire, on a eu des terrains en secondaire, mais alors bon, c'est beaucoup toujours plus compliqué dans le secondaire. Et là, on a un nouveau terrain qui se, il y a un collège qui nous fait une demande. Donc c'est pas nous, on a une troisième collègue avec laquelle on travaille beaucoup. On est toute une équipe, mais on a sur le terrain du Mans, on a Isabelle Audras avec laquelle on travaille beaucoup. C'est elle qui a suivi pour le moment cette question-là. On a un collège où il y a une équipe transdisciplinaire qui s'est mobilisée pour la question de l'accueil des enfants nouvellement arrivés, parce qu'on est quand même assez étiqueté sur cette question-là, et donc enseignant d'espagnol, je crois, d'anglais, de français, CPE, conseiller d'orientation, qui ont eu une première réunion et qui ont envie de monter un projet transdisciplinaire pour essayer de mieux accueillir ces élèves-là. Mais c'est vrai que sur les collèges, c'est plus timide en ce moment, on est plus sur des primaires...
Et maternelles.
Alors, en fait, je pense que là, comme on va vous donner quelques exemples concrets, ça va vous donner des éléments de réponse. Cela dit, les éléments de réponse qu'on va vous donner vont vers le sens du premier, c'est-à-dire prise en compte des langues de l'école, mais pas seulement, non, finalement. Et puis, il y a d'autres aspects. On n'a pas présenté tous les terrains et tous les projets qui sont en cours, mais ça dépend quand même du contexte, en fait. On est beaucoup sur des ZEP, et il y a tellement à faire sur les langues de la maison dans les ZEP que... Faut-il aller chercher beaucoup plus loin? Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. C'est bon. Par contre, voilà, j'ai une école de centre-ville maternelle. Il y a des langues qui, mais on est ouvert sur beaucoup d'autres langues aussi parce que sinon c'était un peu maigrichon. Voilà. Donc ça dépend quand même du terrain. À mon avis, les deux sont. Enfin, il y a pas d'exclusive. Il y a pas de.
Alors ça doit vous sembler assez flou, hein, parce que effectivement nous refusons, au début nous avons pratiqué de façon assez professorale d'une certaine façon, mais nous refusons maintenant d'arriver avec des matériaux tout faits, hein, comme ça se passe dans certains lieux. Et ça commence par une présentation de ce que nous entendons par le plurilinguisme, par une évocation de projets déjà faits, dans d'autres écoles, de la ville ou ailleurs, et des objectifs de cette démarche du plurilinguisme. Mais ensuite, notre petite histoire nous a prouvé que arriver avec des projets tout faits, c'était à la fois lourd, imposant, c'était imposer quelque chose à des groupes d'enseignants qui avaient peut-être d'autres idées en tête, et à partir des discours que nous tenions avec eux. Et donc, nous sommes plus maintenant en position d'observateur aidant. C'est-à-dire que et finalement, c'est ça qui se développe peut-être à cause de notre attitude. C'est-à-dire que il y a des idées qui surgissent dans les classes, entre deux ou trois enseignants, ou chez un enseignant, tout simplement, ça mûrit hors de nous, d'une certaine façon. Tout d'un coup, on se dit, tiens, là, telle école ne nous appelle plus, ou bien une telle n'a pas donné signe de vie, elle a dû abandonner. Et puis tout d'un coup, coup de téléphone, et tiens, j'ai eu une idée, vous ne voulez pas venir voir? Et on se réunit autour de ça, on regarde ce qu'une telle a commencé à faire, et ça se développe avec notre aide si nécessaire, si elle est demandée, avec des discussions, des réunions autour de ça, autour de ce projet, et c'est comme ça que certains projets se sont développés, mais les enseignants en sont restés maîtres. Et voilà, nous sommes dans une attitude réflexive autour de ça, avec eux. Mais ça nous semble plus riche et plus prometteur que d'arriver en balançant d'une certaine façon un programme tout fait d'activités préparées de l'extérieur.
Oui, alors.
Oui,
voilà, c'est
oui,
ça, parce que
oui,
on n'est pas informel. Voilà.
Oui, oui.
Parce que la recherche-action implique des protocoles dans lesquels on n'est pas. Enfin, si on dit. Disons qu'il y a de l'action dans notre recherche, beaucoup d'action dans notre recherche. Alors, juste pour illustrer maintenant, mais très rapidement, parce qu'il faut qu'on avance, quelques modalités de collaboration qu'on a eues. Donc, il y a eu une démarche quand même au départ qui était, parce que bon, dans le projet, on est plusieurs, il y a différentes visions de ce que doit être la collaboration avec les enseignants. Et donc, ça a quand même beaucoup démarré à travers la présentation d'outils tout prêts conçus dans le cadre du projet EVLang, auquel des enseignants sont venus dans le cadre de réunions organisées par des conseillers pédagogiques, par des IEN, etc. Et donc là-dessus, on a rebondi par exemple dans une école maternelle avec les enseignants qui ont accepté, bon an mal an, de monter une séquence qui est autour du petit cheval, une comptine dans différentes langues, donc où il y a des supports graphiques, sonores. Et bon, alors on est venu, on a fait, bon, je vous passe tout le protocole, mais enfin finalement ces séances ont été montées. Et puis les enseignantes nous ont plus tellement recontactés. Puis à la fin, on leur a dit, mais vous savez, on aimerait bien refaire des entretiens avec les enfants. Et là, elles nous disent, bah oui, ça sera l'occasion qu'on vous montre ce qu'on a fait. Et alors, à partir de cette séance, elles avaient monté tout le spectacle de l'école de fin d'année. Les élèves, par groupe, certains dansaient sur le grec, d'autres dansaient sur le chinois, d'autres dansaient sur le tamoul. Donc ça veut dire qu'ils avaient appris à reconnaître les langues. Ils savaient quand ils l'entendaient dans telle ou telle langue. Enfin, elles avaient monté un truc extraordinaire, complètement indépendamment de nous, pas du tout comme on l'aurait fait. Mais alors, il s'était passé un tas de choses. Enfin, je veux dire, c'était... autre type de démarche. Alors ça, c'est toujours dans cette école-là, l'année suivante. Elle redémarre, elle nous dit, oui, on veut bien faire autre chose, on ne sait pas trop quoi. Puis il y avait une enseignante qui nous avait dit qu'elle avait fait venir déjà une maman pour chanter une comptine russe dans la classe. On discute, et puis vient l'idée qu'après tout, on pourrait faire venir systématiquement tous les parents qui ont dans leur répertoire langagier d'autres langues. Et puis plus rien, elles disent oui, ok, alors on leur laisse un enregistreur, on leur apprend à l'utiliser, et puis rien. On se dit bon, il se passe. Elles nous avaient dit quand même, ça sera difficile, les parents ils vont jamais vouloir venir. Et puis un mois et demi après, c'était parti, et toute l'école s'y est mise, c'est-à-dire toutes les classes se sont impliquées. Nous on travaille avec deux instits, maintenant il y a 5 classes dans l'école qui travaillent avec les parents, et bon, ça sera un des supports qu'on va regarder pour ceux qui auraient envie dans l'atelier. Alors... rien à voir, et ça c'est Marité qui a vécu, mais je le résume, plus dur pour toi de le résumer, parce que c'était plus une enseignante qui était venue à ces fameuses réunions et qui était repartie en disant c'est pas mon truc, moi j'ai des projets dans ma classe, franchement vos matériels là c'est pas pour moi, et puis tout d'un coup elle recontacte Marité en lui disant finalement je connais quelqu'un au Portugal qui a des élèves, etc., on pourrait faire une correspondance, les élèves écriraient en portugais, nous on leur écrirait en français, et puis on ferait un travail d'intercompréhension. Et puis après, elle a exprimé dans des entretiens que Marité a eu avec elle que finalement, elle, c'était clairement non à du matériel qui arrivait dans le cadre de séances, mais oui à la démarche qu'il fallait d'abord qu'elle... Il fallait d'abord que la démarche mûrisse en elle, mais que la démarche, si elle s'inscrivait dans un projet de classe, l'intéressait, mais pas si elle était sous forme de séance à rajouter.
Non, elle a déclaré clairement que pendant un an, elle n'a rien compris à notre projet. Oui. À ce projet qui... Non, mais rien, j'ai rien compris. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, c'était pas la peine que je perde mon temps. Et puis tout d'un coup, c'est quand elle a décidé, ça a dû mûrir implicitement, et c'est comme ça qu'elle a repris le téléphone ou qu'elle m'a envoyé un mail en me disant « Tiens, viens donc voir, j'ai essayé de faire quelque chose avec des créoles. » Et puis après, elle est partie sur son projet.
Parce qu'il y avait des séances Evelyn qui avaient été conduites dans sa classe.
La notion de maturation est vraiment très très importante, on le sent là.
Et puis dernière chose, c'est dans une école primaire dans laquelle on travaille, ou qui est une école de périphérie avec un public très... lourd, on va dire, pour aller vite. Et là, on a discuté. Alors, il y a plein de projets dans cette école. On en cite juste un, mais bon, l'école est engagée dans le projet École Cinéma. Ils allaient voir Azur et Asmar. Donc, elle nous a dit les films qu'ils allaient voir. Et puis, elle dit Azur et Asmar. Je dis, on va pas passer à côté de ça. Et est-ce si on essayait de travailler autour de ça? Donc, est partie l'idée de travailler autour d'Azur et Asmar. Et c'est le deuxième support qu'on va vous proposer en atelier. Pas forcément. Enfin, c'est pas. D'ailleurs, c'est certain que les ateliers qui travailleront autour de ça ne vont pas proposer quelque chose qui aille dans le même sens que ce que fait l'école, parce que... Mais c'est l'idée que ce support-là, il est d'une richesse extraordinaire à travailler dans les classes et à travailler tout simplement en formation de formateurs. On va voir si vous en êtes convaincu ou pas.
Mais peut-être le connaissez-vous déjà.
Je crois qu'on va passer sur la dernière diapo, ouais, parce qu'on a finalement à peu près tout dit, et puis présenter les données. Donc, les objectifs qu'on peut imaginer au travail qui se ferait en atelier autour de Azur et Asmar. On les a mis sur une feuille, donc vous aurez le temps de vous les approprier. Ce qu'on propose, c'est simplement de montrer les extraits à tout le monde pour que les équipes qui auront travaillé sur Azur et Asmar puissent s'adresser à des gens qui auront vu les 7-8 minutes de film. Alors là, ça va être périlleux. Et puis, je vais juste vous présenter le deuxième corpus avant de sortir du diaporama. C'est donc des documents audio. Je crois qu'on va pas les faire écouter à tout le monde. Il y a des transcriptions qu'on pourra se passer pour l'essentiel, puis sinon ça se racontera. Mais le groupe qui travaillera là-dessus travaillerait sur l'écoute d'extraits de classe lors de la venue d'une maman qui vient présenter le Kikongo, mais dans le cadre d'un gros projet où tous les parents passent. Et puis à côté de ça, les autres données qu'on pourrait exploiter dans l'atelier, c'est des données photos qui à la fois présentent le matériel qui a été conçu par les enseignantes, puisqu'on est en maternelle, donc il y a quand même des supports matériels importants, des photos de la séance, et puis ça donne aussi les photos donnent aussi une idée de l'ensemble des séances qui ont été conduites. Donc voilà.
Ah oui, là. Merci.
Yeah. Mais un beau prince viendra. Avec les trois clés magiques, il délivrera la fée des djinns et il trouvera l'amour.
Qu'est-ce que c'est, les djinns ?
Ce sont de petits bons hommes qui s'occupent de la nature autour de nous. Parfois, ils sont gentils, parfois, ils sont méchants. C'est pour cela qu'il vaut mieux que la fée des djinns s'en occupe.
Est-ce qu'il y a des djinns ici aussi ?
Oui, mais ils sont appelés elfes. Peut-être y en aura-t-il de gentils qui viendront vous bercer cette nuit. Dormez bien, mes enfants. Naoman hani ania atfali.
Bonne nuit. Tusbihina ala khair ya mama.
Alors, on passe un tout petit peu pour...
Et de la fée des djinns. Il fait toujours soleil. Partout des roses et du jasmin en baume. Les maisons sont blanches et bleues. Comme dans un rêve.
Asma a une plus grosse part que moi.
Je suis pas vrai. J'en ai moins.
C'est pas vrai, il a tout mangé.
Si vous n'arrêtez pas, j'arrête l'histoire de la fée des djinns.
Non.
D'abord, qu'est-ce qu'on dit?
Merci, nourrice.
Chokran, ya mama.
Mais la fée des djinns est retenue au loin, dans une montagne noire. À l'intérieur.
Bon, donc ensuite, ils vont grandir et la nourrice est repartie de l'autre côté de l'océan, ou des mers. Et Azur va essayer de la retrouver. Elle est partie avec son fils. Et donc, il s'échoue. Son bateau s'échoue. Et quand il... Les premières rencontres qu'il fait là avec des autochtones, il découvre que les gens de ce pays ne supportent pas les gens qui ont les yeux bleus, puisque ça porte malheur. Donc, il est malheureux, il a faim, il a soif, il a...
La campagne, Hélène. Et j'ai cru à la fée des djinns. Ma nourrice a menti. J'aurais dû mourir noyé. Des gens viennent, pourvu qu'ils ne me voient pas. Ça y est, ils m'ont vu. Ils vont me frapper. Non, ne semble pas me vouloir de mal. Oui, mais j'ai les yeux fermés. Ils ne savent pas encore que j'ai les yeux bleus. Ils ne le sauront jamais. Ce monde est laid. Je n'ouvrirai plus jamais les yeux. Désormais, je suis aveugle. Sabahul khair.
Sabahul khair.
للأسف نحن فقراء جدا.
عليك أن تذهب إلى المدينة.
المدينة؟ La ville؟
اذهب إلى المدينة حيث يمكنك التسول.
التسول. Mendier؟
تعال، سوف نريك طريق المدينة.
هذا خير لك.
أنت الآن باتجاه المدينة.
شكرا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Et maintenant il va retrouver sa nourrice. C'est le dernier.
صباح الخير هذا شاب أزور يقول بأنه يعرف السيدة جنان جيدا ويريد أن يراها. Tu es content?
Doris!
Hey, tu vas nous faire bastonner!
ماذا يفعلان؟
Doris! Doris!
طلب الشرطة.
C'est Azur! Doris!
نعم سوف تريد النجوم في عز الضحى.
أزور رابيل توا.
ماذا يفعلان؟
لويس اوفر موا.
هيا بي.
Pourquoi venez-vous faire ce scandale chez moi?
Doris, je suis Azur.
Je ne sais d'où vous tenez cette histoire. Mais votre imposture ne vous mènera à rien. Vous n'êtes pas ce garçon. Il est sorti de ma vie. Retirez-vous.
Nourrice, je suis Azur.
Azur est de l'autre côté de la mer.
Nourrice, j'ai traversé la mer.
Azur
n'avez pas votre voix.
Nourrice, les garçons changent de voix.
Azur n'était pas aveugle.
Ça, Pisahir, ya Silkabir. Jak ta ulwidia niat finiran, wahua yuhalles huriat enjan, man ya ishan bihana, bihana.
إنه الطفل الذي ربيته في الجهات الأخرى من البحر.
سامحشي، انتبه، انتبه.
Mon azur, que tu es devenu beau.
Toi aussi, tu es belle. Avant, j'étais aveugle, et avant, je n'ai vu que des choses laides. Et te voilà, belle comme une reine. Je remplis mes yeux.
Tes beaux yeux bleus.
Maurice, est-ce que tu n'es pas gêné que je sois dans ta maison alors que j'ai les yeux clairs?
Tu veux parler de la superstition des yeux bleus? Écoute, mon fils. Je connais deux pays, deux langues, deux religions. Ce qui fait que j'en sais deux fois plus que les autres. Pendant que les autres s'arrêtent à cause d'yeux bleus ou du chat noir, moi, je m'active et je gagne. Qu'on n'évoque plus jamais cette sottise des yeux bleus devant moi. Misérable imbécile! Si les yeux bleus te gênent, tu pars et ne reviens plus. Aidez-le aux autres. File!
Tu crois qu'elle a compris?
Avec le ton que j'ai pris, il n'y a plus de problème de langue.
Nourrice.
S'arrête là, malheureusement. Donc ça, c'est les trois extraits qu'on propose dans un atelier. Et l'autre serait Kikongo. Et le troisième, Patricia a disparu.
Je suis là. Et le troisième atelier.
Oui.
On n'a pas parlé du deuxième. On n'a pas parlé du deuxième.
Donc tu veux qu'on en dise plus sur les objectifs, tout ça? Non.
Bah, peut-être.
Tout de suite.
Donc,
ah, d'accord, donc alors, ok. Comment?
Et qu'on parle du deuxième atelier possible.
D'accord, oui, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Donc tu veux retirer les objectifs. On a, comme piste, on a mis, pour le moment, on avait mis identifier les champs d'analyse de la communication.
Ah oui, mais c'est ça, vous avez donc les. Donc
on a un document qui donne des pistes.
Ou d'autres.
À partir du support, donc qui est à la fois un diaporama de photos et trois petits extraits courts de. D'une rencontre, enfin d'une venue d'une maman dans une classe de moyenne section, grande section.
Et vous pensez le montrer maintenant ?
Non. Et c'est audio seulement, mais on les fera écouter en groupe. Et puis, on a une transcription pour qu'après, quand il y aura une restitution, on puisse discuter.
Mais on peut compléter quand même en disant que la maman est venue dans la classe, a été invitée dans la classe dans le cadre d'un programme.
Hein, tous les parents d'autres viennent, mamans,
voilà. Et pour parler un peu de sa langue, mais aussi pour que les enfants puissent tâter, si on peut dire, cette langue. Elle leur fait répéter les chiffres en Kikongo. Enfin, donc il y a
un enseignement.
Voilà, il y a une sorte d'enseignement.